Voice of Indonesia.
Bonsoir, Segrita. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes, le journal, le commentaire et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel Apprendre l'Indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à toutes et à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Les millénaires doivent savoir la diplomatie du ministère des Affaires étrangères. Le gouvernement indonésien réorganisera le programme de stage à Taïwan. Le ministre des Finances a rappelé l'importance des incitations fiscales pour encourager l'utilisation des flux de capitaux. Après la démission du président Kim, la ministre des Finances a souhaité que la Banque mondiale maintienne la mission d'égalité de la prospérité. Les produits indonésiens ont commencé à pénétrer la zone du nord-est de Chine. Le gouvernement a alloué 15 000 trillions de rupiahs pour les fonds d'aide en cas de catastrophe. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Madame Retno Marsudi, a déclaré que la génération du millénaire était un agent de changement et de tolérance. Il est important de mieux connaître la diplomatie étrangère indonésienne. La ministre a dit cette question lors de la millénial rencontre la ministre des Affaires étrangères qui a eu lieu mardi, qui fait partie d'une série de réalisations des 4 années du ministère des Affaires étrangères à Jakarta, devant des centaines de millénaires qui étaient des étudiants de plusieurs universités de Jakarta. Madame Retno a déclaré qu'en tant qu'agent de changement et d'agent de tolérance, il est important que les millénials connaissent la diplomatie étrangère pratiquée par l'Indonésie.
Tentunya dengan mereka memahami, mereka juga kita harapkan.
Bien sûr, avec leur compréhension, nous espérons qu'ils deviennent des agents de changement. Ils sont des agents de tolérance. Et nous souhaitons qu'ils soient les agents de l'énergie positive de campagne. Parce que l'Indonésie a besoin de plus d'énergie positive. Selon la ministre Retno Marsudi, la voix du millénaire est une partie de la nation indonésienne qui est également important d'être entendue. Si on parlait de politique étrangère, on exprimait les intérêts du peuple, les intérêts de la nation et par conséquent, en présentant le succès de la diplomatie étrangère de l'Indonésie réalisé en utilisant la langue de millénaristes. La polémique sur les résultats des enquêtes des membres du Parlement de Taïwan, Ko Chi-sen, sur les pratiques d'apprentissage de l'Université Tsinghua à la fin de 2018 sur le prétendu travail forcé de 300 étudiants indonésiens reste préoccupant dans le pays. Le gouvernement indonésien, par l'intermédiaire de ses représentants à Taïwan et le gouvernement de Taïwan, continue de mener des enquêtes approfondies sur le rapport. Le directeur de la protection des citoyens indonésiens et des entités juridiques indonésiennes du ministère indonésien des Affaires étrangères, M. Lalu Muhammad Iqbal à Jakarta mardi a déclaré que le gouvernement, par l'intermédiaire du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Recherche technologique et de l'enseignement supérieur, avait décidé de remodeler la gouvernance des programmes de stage universitaires à Taïwan, qui fait référence aujourd'hui à de nombreuses politiques émises par parties prenantes. Iqbal a expliqué que le nombre de programmes de stage collégiaux avait en effet en l'absence d'un système de surveillance unique.
ada skema yang diinisiasi atau diprakarsai oleh provinsi.
Il existe un programme lancé par la Provence, un programme relevant du ministère de la Recherche, de la Technologie et de l'Enseignement supérieur, un programme relevant des fondations. C'est ce que nous voulons organiser à nouveau. Nous avons discuté avec le ministère de la Recherche technologique et de l'Enseignement supérieur et nous sommes convenus que nous devions nous réunir et cartographier à nouveau pour améliorer la gouvernance. Selon M. Iqbal, l'Indonésie poserait de nouvelles questions aux parlementaires taïwanais Ko Chin-hen liées aux résultats de son rapport d'enquête sur des travaux forcés impliquant des centaines d'étudiants indonésiens à l'université de Tsinghua, parce que depuis la publication des résultats de l'enquête jusqu'à présent, le gouvernement indonésien n'a reçu aucun rapport similaire de la part d'étudiants indonésiens qui étudiaient à l'université. La ministre indonésienne des Finances, Madame Sri Mulyani Indrawati, a souligné l'importance de l'application d'incitation fiscale pour que les investisseurs étrangers réinvestissent les bénéfices réalisés en Indonésie aux taxes inversées. Madame Sri Mulyani, lors d'un séminaire sur les perspectives économiques pour 2019 à Jakarta mardi, a déclaré que cette application était plus à la conception, elle n'est pas nécessaire ou non. L'existence d'une conception claire à partir des incitations fiscales afin que les entrées de capitaux puissent avoir un impact positif sur l'économie. Ce n'est pas un argent chaud à court terme qui peut perturber la performance économique. À une autre occasion, l'économiste Khatib Basri a révélé au gouvernement d'approfondir les marchés financiers afin que les marchés des obligations et des capitaux ne dépendent pas de financement extérieur. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. La ministre indonésienne des Finances, Madame Sri Mulyani Indrawati, espère que la Banque mondiale maintiendra sa mission de lutte contre la pauvreté et l'égalité de prospérité après la démission de Jim Yong Kim à la présidence de l'institution financière multilatérale, même après la démission de Jim Yong Kim du poste de président de cette institution financière multilatérale. Madame Sri Mulyani a déclaré à Jakarta que l'Indonésie, comme l'un des membres de la Banque mondiale, espère que cette institution pourra toujours être maintenue dans le cadre de la mission de réduction de la pauvreté dans le monde et de continuer à améliorer l'égalité de prospérité. Il a demandé à la Banque mondiale de rester cohérente pour réduire la pauvreté et maintenir le niveau d'inégalité mondiale à travers divers efforts de développement, parce qu'actuellement, ces questions sociales sont très pertinentes dans divers pays. Un certain nombre de produits excellents de l'Indonésie ont commencé à pénétrer la zone du nord-est de la Chine après avoir été exposés à l'exposition sur les aliments importés à Harbin du 5 au 7 janvier 2019. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur indonésien en Chine, M. Jauhari Oratmangun, mardi à Pékin. Les produits indonésiens exposés dans la capitale de la province de Heilongjiang comprennent le café, les nouilles instantanées, les biscuits, les craquelins à la crevette, le nid de martinet, ainsi que leurs dérivés. Environ 200 entreprises de 7 pays d'Europe et d'Asie, y compris l'Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande et le Vietnam. Le pavillon indonésien situé sur la ligne principale a été visité par de nombreux visiteurs. Le gouvernement indonésien a alloué 15 000 trillions de rupiah au budget de la prévision et de l'atténuation des effets de catastrophe sur le budget de 2019. C'est ce qu'a affirmé la ministre des Finances, Madame Sri Mulyani Indrawati, après une réunion plénière du cabinet au Palais d'État Jakarta récemment. Elle a déclaré que l'année dernière, l'Indonésie avait consacré plus de 7 000 trillions de rupiah à l'atténuation des catastrophes. Les fonds budgétaires ne sont pas simplement pour l'Agence nationale de prévention des catastrophes naturelles, ou BNPB. l'Indonésie a augmenté des dépenses sous la forme d'un fonds sur appel. Elle a précisé que le fonds sur appel serait disponible si l'Agence nationale de prévention des catastrophes naturelles, ou BNPB, jugeait nécessaire de prendre des mesures d'urgence. Elle a expliqué que le gouvernement a le projet également de constituer un fonds de mise en commun par le biais duquel il regrouperait le fonds de chaque région pour les efforts d'atténuation des effets des catastrophes. Elle a également déclaré que pour mener des programmes d'atténuation des catastrophes, le gouvernement avait également appris des Philippines, souvent touchées par le typhon, et des pays d'Amérique latine qui sont souvent frappés par des tremblements de terre. Le gouvernement a commencé à préparer un mécanisme d'assurance contre les catastrophes sous la forme du fonds de mise en commun de 1 trillion de rupiah pour accélérer la récupération des zones touchées par les catastrophes. Le décaissement des fonds peut être effectué en tenant compte de l'ampleur de la catastrophe naturelle, du nombre de victimes et du niveau des dommages causés par la catastrophe. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « Espoir pour mettre fin à la guerre commerciale ». La poursuite de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine sera toujours déterminée dans les négociations. Les délégués des deux pays aujourd'hui à Beijing continueront les négociations. L'existence des négociations qui s'est achevée mardi a montré qu'il y a encore des choses qui ne sont pas encore convenues. L'un des délégués des États-Unis a déclaré que les discussions allaient bien. Le président des États-Unis, Donald Trump, via Twitter, aurait même prétendu que les négociations s'étaient très bien déroulées. Comme on le sait, les États-Unis et la Chine tentent de trouver une solution du conflit commercial depuis le début de l'année dernière. Le conflit a secoué l'économie mondiale et a eu l'impact sur la stabilité de la monnaie et des marchés financiers. Depuis le 1er décembre 2018, les deux pays géants de l'économie ont convenu le cessez-le-feu pendant 90 jours. Ainsi, la réunion à Beijing est la première depuis la déclaration d'un cessez-le-feu de la guerre commerciale. La guerre commerciale entre les deux pays a été menée en imposant des droits d'importation sur les produits commerciaux des deux pays qui ont atteint des centaines de millions de dollars américains. L'impact de la guerre économique et des mesures prises entre autres par Washington et Beijing sur le mouvement des marchés boursiers. La déclaration positive de Donald Trump louant la réunion de Beijing a renforcé la passion du marché des capitaux. La passion du marché boursier ne se produit pas seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe. À Londres, l'indice de FTSE 100 a bondi de 0,74%, l'indice de DAX à Francfort ajoute de 0,52% et l'indice de CAC 40 à Paris de 1,15%. Ce qui est passé sur le marché des capitaux montre l'ampleur de l'influence de guerre commerciale américaine et chinoise. Par conséquent, la communauté internationale espère que les négociations à Beijing sur la guerre commerciale entre les deux pays produiront des résultats positifs. Chers amis, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement. Le siège des Nations Unies a été officiellement ouvert à New York le 9 janvier 1951. Le siège des Nations Unies à New York est le lieu le plus important et le lieu principal des Nations Unies de convoquer. Un certain nombre d'agences des Nations Unies et le secrétariat des Nations Unies ont des bureaux là-bas. Après sa création en 1945, les Nations Unies étaient basées à Londres. Cependant, le 24 octobre 1949, La première pierre du siège des Nations Unies a été placée à New York. Le milliardaire américain John D. Rockefeller a fait un don de 7 hectares de terrain à l'est de Manhattan à l'ONU pour le bureau de l'agence. L'autre information est sur le début de la construction du barrage d'Aswan en Égypte le 9 janvier 1960. Le barrage d'Aswan est situé dans la région sur le Nil en Égypte. Il a été construit le 9 janvier 1960 et a été achevé en 1970 durant le règne du président Gamal Abdel Nasser. Le barrage est très bénéfique pour l'Égypte, entre autres, de protéger les régions de l'écoulement du Nil des risques d'inondations annuelles à cause de l'écoulement abondant de l'eau dans l'été qui vient de l'écoulement du Nil. Le barrage est en mesure de faire l'économie égyptienne se développer très rapidement et de significative. La fonction principale du barrage d'Aswan est d'inhiber le taux de l'eau du lac Nasser à la rivière du Nil. Le but de ce projet d'eau est de lutter contre les inondations des rivières, de créer de l'électricité et de fournir de l'eau d'irrigation pour l'agriculture. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement Mahmoud Abbas est élu à la tête de l'autorité palestinienne le janvier 2005. Après la mort du leader palestinien charismatique Yasser Arafat en novembre 2004, les fonctionnaires de l'Organisation de libération de la Palestine, OLP, ont choisi à l'unanimité Mahmoud Abbas comme président de l'OLP le 11 novembre 2004. Mahmoud Abbas remporte l'élection à la présidence de l'autorité palestinienne avec 62,3% des votes. Mais son mandat à la tête de l'autorité palestinienne est très lourd après la victoire du Hamas aux élections législatives le 25 janvier 2006 qui délivre Ismaïl Haniyeh pour le poste de premier ministre de la Palestine. C'est l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Tak perlu ku mengatakan
Serviteur, c'était la chanson intitulée « Contre le sentiment » chantée par Citra Scholastica Fitpiu. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia d'Indonésie pour le monde. Et voici donc mon Indonésie intitulée « L'expédition pionnière du navire commercial d'Aceh est arrivée à Port Blair en Inde ». Chers amis longtemps, pour la rubrique suivante, voici donc mon Indonésie ayant pour le titre « L'expédition pionnière du navire commercial d'Aceh est arrivée à Port Blair en Inde. L'expédition pionnière de navires commerciaux en provenance d'Aceh est arrivée à Port Blair dans les îles Andaman et Nicobar en Inde jeudi. Le communiqué de presse de l'ambassade d'Indonésie en Inde reçu à Jakarta samedi a indiqué que le chef adjoint des représentants de l'ambassade d'Indonésie à New Delhi, Vince M. Suebu et des représentants gouvernementaux des îles Andaman et Nicobar, et la Chambre de commerce et d'industrie d'Andaman ont accueilli l'arrivée de la mission d'expédition au port de Port Blair. L'équipe de l'expédition était composée d'un capitaine et de 6 membres d'équipage naviguant d'Aceh à l'aide de bateaux à moteur KM Aceh Millennium. Cette expédition de navires lancée du port de Malahayati à Aceh Besar le 29 décembre 2018 a transporté divers échantillons de produits d'Aceh à exposer en ville Port Blair allant du café, les légumes, les épices, les huiles végétales, les meubles jusqu'au ciment et sable. Sam Arifin Wiwi, directeur général de Pelindo Ang de la succursale de Malahayati, a déclaré que cette expédition était la réalisation de la coopération entre l'Indonésie et l'Inde à travers des déclarations sur la vision commune de la coopération maritime entre l'Inde et l'Indonésie dans l'Indo-Pacifique. Cette expédition commerciale par la voie maritime constitue une forme de suivi visant à renforcer la connectivité entre Sumatra et Andaman, comme convenu par le président indonésien Joko Widodo et le premier ministre indien en mai 2018. En renforçant la connectivité entre les deux régions, les relations commerciales, le tourisme et les relations interpersonnelles devraient augmenter et sont bénéfiques pour les deux parties. La vision souligne l'importance d'améliorer le bien-être régional, notamment par le développement d'une connectivité économique fondée sur des normes universelles, le droit international, la transparence et le respect mutuel de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. L'expédition pionnière du navire commercial est en suivi à la visite de travail de la délégation de l'ambassade d'Indonésie au port de Malahayati en juillet. Ce port est soutenu par des installations qualifiées pour les activités de chargement et de déchargement. Le port a une profondeur de jauge de 9,5 mètres avec une jetée atteignant 384 mètres. Le port de Malahayati a également des envois programmés. La disponibilité d'équipements de chargement et de déchargement et des chambres de stockage de containers et accueille 3 navires de 100 mètres. Serviteur, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Voice of Indonesia. Indonesia.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson intitulée Pan Asmara ou Flèche Amoureuse chantée par Krisye et Tohpati. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie pour le monde sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bon, chers auditeurs, maintenant nous allons vous présentez le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Bonsoir, chers auditeurs. C'est un plaisir de vous rencontrer à nouveau dans le magazine culturel, un programme quotidien sur le tourisme, l'alimentation, ainsi que les arts et la culture de diverses régions d'Indonésie. Dans l'édition d'aujourd'hui, je vais vous inviter à visiter la colline Wantiro à Baobao, en province du sud-est de Sulawesi. Le ciel bleu qui est décoré par le rouge du soleil qui se couche lentement derrière l'océan devient un paysage qui hypnotise tous ceux qui le voient. La colline de Wantiro à Baobao, dans la province du sud-est de Sulawesi, présente des paysages de ce genre à chaque après-midi. Il ne prend que 8 minutes en voiture du centre-ville de Bao Bao. Il n'y a pas de restaurant luxueux ni de complexe confortable pour vous accueillir sur la colline. Un endroit simple au bord de la route qui est envahi par les vendeurs ne diminue pas les beaux paysages qui peuvent gâter vos yeux. Prendre des photos devient certainement une activité favorite pour perpétuer vos souvenirs sur cette colline. Bao Bao était le centre du royaume de Bouton qui s'est établi au début du 15e siècle. Bouton est bien connu dans l'histoire parce que Bouton a été noté dans le script Negara Kertagama écrit par Prapancha en 1365 en mentionnant Bouton ou Boutouni en tant que village habité par un prêtre. Bao Bao est une ville touristique. Il y a beaucoup d'objets touristiques qui peuvent être visités dans cette région. L'objet touristique à Bao Bao est divisé en deux types, à savoir l'objet de tourisme historique et naturel. Les points forts du royaume de Bouton sont l'un des objets de tourisme historique. Cette forteresse a reçu un prix du Musée indonésien du record au Mori et le record de Guinness Book publié en septembre 2006 comme plus large forteresse du monde avec une superficie d'environ 23 375 hectares. De haute des forteresses, vous pourrez admirer de beaux paysages. Pour les amateurs de photographie, Bao Bao devient un paradis car chaque coin de la ville est en mesure de présenter des résultats parfaits. Vous pouvez terminer votre séjour à Bao Bao en buvant une tasse de lait au café au gingembre accompagnée de bananes frites avec la sauce de piment. Chers auditeurs, c'était le magazine Culture pour ce soir avec comme titre La colline Wantiro à Bao Bao en province du sud-est de Sulawesi. Merci de votre attention. À demain.
Voice of Indonesia.
Yang ada dalam hatiku percaya.
Serviteur, c'était la chanson du groupe musical Cowboy intitulée Ensemble avec toi. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde. Pour la boucle suivante, voici donc apprendre l'indonésien.
Voice of Indonesia.
Bonsoir tous les amis, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous introduit des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler l'indonésien. Cette émission est une collaboration entre la Voix de l'Indonésie et l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République de l'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Perkenalan, ou en français, se présenter. Maintenant, je vais vous donner l'exemple d'une conversation intitulée Perkenalan, ou en français, se présenter. Tony et Cynthia sont à la cabine de l'avion. À côté de Tony était assise une femme. Tony veut parler à la femme pour pratiquer à parler l'indonésien.
Pagi, mbak.
Pagi.
Kenalkan, saya Tony.
Oh, Cynthia.
Après avoir écouté une conversation, je vais vous introduire des vocabulaires et des phrases indonésiennes liées au sujet d'aujourd'hui. Perkenalan, ou en français, se présenter. Kenalkan, saya Tony. Kenalkan, saya Tony. En français, je vous présente, je suis Tony. Nama saya Tony. Nama saya Tony. En français, je m'appelle Tony. Saya Cynthia. Saya Cynthia. En français, je suis Cynthia. Nama saya Cynthia. Nama saya Cynthia. En français, je m'appelle Cynthia. Quand vous vous présentez, vous pouvez dire kenalkan. Ou en français, je vous présente. D'abord, comme ce que Tony a dit. Kenalkan, saya Tony. Kenalkan, saya Tony. Pour montrer votre nom, dites nama saya Tony. Nama saya Tony. En français, je m'appelle Tony. Nama saya Cynthia. Nama saya Cynthia. Je m'appelle Cynthia. Ou saya Tony. Saya Tony. En français, je suis Tony. Saya Cynthia. Saya Cynthia. En français, je suis Cynthia. Après se présenter, vous pouvez dire senang berkenalan dengan Anda. Senang berkenalan dengan Anda. En français, enchanté. Mais cette expression est rarement utilisée par les Indonésiens. D'habitude, ils demandent de nouvelles ou d'autres choses. Chers amis, avant de terminer le programme de l'apprendre l'indonésien aujourd'hui, pour comprendre plus, écoutons la conversation encore une fois.
Pagi, mbak.
Pagi.
Kenalkan, saya Tony.
Oh, Cynthia.
Chers amis, voilà l'édition de la rubrique Apprendre l'indonésien pour aujourd'hui. J'espère que cette édition pourra être utile pour ceux d'entre vous qui veulent savoir plus l'indonésien. Merci à tous et à bientôt.
Terlintas di hayalku. kau masih malu-malu saat kita bertemu. Kini ku telah sadari rasa itu kan berarti. Ku ingin kau mengerti bisikan hati ini. Ternyata ku menyimpan perasaan ini, membuatku semakin terbuang mimpi. Akan ku bisikan, akan ku katakan apa yang telah ku rasakan saat ini, membuatku seakan tak sabar lagi. Akan ku bisikan.
Cerita setelah Samsung, intitulé Murmure, chanté par Chlorophyll. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz ou sur le site web www.voinews.id. Cerita, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Voici le programme musical. Cette fois, je vous présenterai le groupe Leto. Leto est un groupe de Yogyakarta qui a été formé en 2004. Avant de former, Noé, comme chanteur, Patup, guitariste, Ariane, bassiste et Dedot, batterie, sont amis depuis longtemps. Ce groupe a publié des albums et bien apprécié par les amateurs musicaux. La popularité de Leto a diminué depuis 2011, mais Leto est toujours actif sur la scène nationale et internationale. Voici la chanson de Leto intitulée « Sebelum Cahaya » ou « Avant la lumière ». Cette chanson fait partie de l'album « Don't Make Me Sad » publié en 2007. L'une des clés du succès de ce groupe sont les paroles de la chanson. Les paroles de toutes les chansons de Leto sont très poétiques et ont une signification assez profonde. La chanson intitulée « Avant la lumière » a une valeur religieuse. Bon, chers auditeurs, pour terminer l'édition d'aujourd'hui, on écoutera la chanson intitulée « Avant la lumière » de Leto. Bonne écoute.
Of Indonesia.
ku berdiri diam tanpa tepi. Bolehkah aku mendengarmu? Terkubur dalam emosi, tak bisa bersembunyi. Aku dan nafasku merindukanmu.
Voice of Indonesia.
Terbuai aku hilang, terjatuh aku dalam keindahan penantian. Terjatuh keraguan hati yang bimbang, yang terhalang kepastian cinta. Bertuan terasa kerinduan hati yang bimbang, yang terhempas kepastian cinta.
C'est retard, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voicenews.id. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt!